Bonjour à tous, bon retour de longue fin de semaine. Nous sommes le lundi 11 octobre, il est 16h. Votre rendez-vous quotidien en info, le débrief, commence dans quelques instants. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. On a 14 degrés au centre-ville présentement à Victoria avec le soleil. On invite tout de suite notre collaborateur Denis Lépine à vous lire ses bulletins de nouvelles. Ce sera suivi de la météo détaillée et il sera bien sûr question de l'alerte météo qui est en vigueur pour la région du Grand Victoria. Restez à l'écoute. On aura par la suite le bulletin des Nations Unies et bien d'autres infos. En interview, j'accueille Marie-Hélène Bourret qui nous parle de visites guidées de Victoria, visites qui sont gratuites et en français. Je reçois également l'artiste Nathalie Leduc qui nous livrera en fin d'émission une chronique littéraire. Bonne émission à tous! La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Stéphane Dion sera au Mexique, au Guatemala et au Honduras cette semaine, en fait, du 12 au 14 octobre. Le ministre des Affaires étrangères assistera au premier dialogue stratégique de haut niveau entre le Canada et le Mexique. Il rencontrera aussi le ministre des Affaires étrangères du Guatemala, Carlos Rol Morales, de même que des victimes du conflit armé interne et de violence des droits de la personne. Stéphane Dion rencontrera finalement son homologue du Honduras, ainsi que des membres d'organisations de la société civile pour la promotion des droits de la personne. Semaine de prévention des incendies partout au Canada, et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, a déclaré que le travail acharné de la prévention des incendies du Canada et des leaders de la sécurité font en sorte que les Canadiens connaissent les pratiques associées à la sécurité incendie et peuvent diminuer ainsi les risques de dommages. Ralph Goodale a dit que les Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre ont un rôle important à jouer pour assurer la sécurité de leur collectivité et de leur famille. Aux États-Unis, eh bien, le torchon brûle à nouveau entre Donald Trump et le républicain Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants. Selon CNN, Paul Ryan a déclaré qu'il ne défendra plus Donald Trump. Pour sa part, Trump a mentionné sur son compte Twitter que le président de la Chambre devrait se concentrer sur l'emploi et l'immigration illégale. L'homme d'affaires a dit aussi que Paul Ryan ne devrait plus perdre son temps à le défendre, accentuant le fossé entre Trump et l'establishment du Parti républicain. Certaines localités isolées d'Haïti attendraient toujours les secours suite au passage de l'ouragan Matthew la semaine dernière. En fait, selon l'agence France-Presse, certaines régions n'ont pas encore reçu le ravitaillement de base en denrées alimentaires. Les autorités ont précisé également que d'autres secteurs dans le sud-ouest du pays ont pour leur part reçu des denrées alimentaires et des médicaments via hélicoptère. Le gouvernement fédéral doit faire une annonce aujourd'hui en regard du secteur de l'aérospatial. Pour l'occasion, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, sera à Montréal. Il se rendra au Centre de technologie de fabrication en aérospatiale du Conseil national de recherche du Canada pour faire une annonce de financement dans le domaine de l'aérospatial, annonce qualifiée d'importante par le bureau du ministre. Stéphane Dion a déclaré que le Canada condamne l'attaque qui avait pour cible une maison funéraire de Sanaa au Yémen samedi. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté au cours des dernières heures que la coalition menée par l'Arabie saoudite doit maintenant aller de l'avant et respecter son engagement de mener une enquête sur cet incident. Rappelons qu'au moins 140 personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres ont été blessées dans la capitale du Yémen. Le processus de consultation de l'Office national de l'énergie pour recueillir les commentaires de la population du pays concernant une ébauche pour obliger les sociétés énergétiques à publier leur programme d'intervention d'urgence prend fin aujourd'hui. Le processus fait suite à une ordonnance du 5 avril dernier qui oblige les sociétés de mettre en ligne leur manuel de procédure d'urgence. Les programmes de gestion des urgences doivent notamment comprendre les politiques et les systèmes de gestion des incendies. Les événements entourant la Semaine de la citoyenneté se poursuivent aujourd'hui. John McCollum, co-président de la Réunion fédérale provinciale territoriale, est à Winnipeg aujourd'hui. Il assistera à la cérémonie de citoyenneté spéciale au Musée canadien pour les droits de la personne. Ian Wishart, ministre de l'Éducation et de la Formation et ministre responsable de l'immigration pour la province du Manitoba et lui aussi coprésident de la réunion, sera également sur place. Des ministres provinciaux et territoriaux responsables de l'immigration seront également présents. Au sport, au baseball majeur, eh bien, série de division dans l'américaine. Cleveland a vaincu Boston 4-3. Cleveland élimine ainsi les Red Sox. Les Indians vont affronter Toronto en finale de l'américaine. La série débute vendredi. Dans la nationale maintenant, victoire de Washington 8-3 contre Los Angeles. Washington mène la série 2-1. Le match numéro 4 et peut-être le dernier aura lieu en fin d'après-midi aujourd'hui. Et San Francisco a vaincu la nuit dernière Chicago 6-5. Le match numéro 4 aura lieu ce soir. Hockey, alors que la saison 2016-2017 se mettra en branle mercredi. Mauvaise nouvelle dans le camp des Penguins de Pittsburgh. Selon la direction de l'équipe, Sidney Crosby a été victime d'une commotion cérébrale lors d'un entraînement. Son cas demeure incertain pour le début de la campagne. Football canadien, victoire d'Edmonton 40-20 contre Montréal. Et Calgary a eu raison de Toronto 48-20. Et dans la NFL, au match du lundi soir, victoire de Tampa Bay 17-14 contre la Caroline.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. Mardi 11 octobre, il est 16h06. On va passer à la météo maintenant dans le débrief. On a une alerte météo sur le Grand Victoria. Alors, je commence tout de suite par ce message important d'Environnement Canada. Je vous lis le texte de cet avertissement qu'on trouve sur météo.gc.ca. Donc, ça concerne le Grand Victoria, une première d'une série de puissants orages d'octobre approchera de la côte de la Colombie-Britannique tard dans la nuit de mercredi à jeudi, apportant de la pluie forte et des vents forts. Une seconde série devrait arriver en début de journée vendredi, pendant qu'une troisième touchera terre plus tard dans la journée de samedi. La pluie sera parfois forte. La quantité totale de pluie attribuable à ces orages pourrait dépasser les 200 mm sur l'ouest et l'intérieur de l'île de Vancouver. Sur les régions de la côte intérieure, la quantité pourrait dépasser les 100 mm de pluie, mais elle pourrait être plus importante près des montagnes. Des vents forts accompagneront aussi ces orages. Les vents sur les secteurs côtiers, à découvert pourraient s'élever par moment à plus de 80 km/h. Au cours des intempéries, à mesure que les orages se formeront ou approcheront de la côte, nous disposerons, dit Environnement Canada, de plus de détails. Des avertissements seront fort probablement émis pour de nombreuses régions et seront mis à jour au besoin. Donc voilà pour cet avertissement qui concerne une période qui va débuter dans 24 heures environ. Donc la première série d'orages aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Je vous en reparlerai demain, bien sûr. En attendant, on a actuellement 13 degrés du côté de l'aéroport de Victoria, à proximité de Sydney. C'est 14 degrés au centre-ville et 13 degrés dans le port de Victoria. C'est le soleil partout qui domine, bien sûr. Ce soir et cette nuit, ça demeure dégagé. Et demain, dans la journée, on aura un mélange soleil-nuage avec un maximum de 13 degrés. On se rend maintenant au bulletin des Nations Unies et on se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles du jour.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la radio des Nations Unies. En titre, l'OMS envoie 1 million de vaccins contre le choléra en Haïti. UNICEF lance une campagne massive de vaccination contre la polio dans le bassin du lac Tchad. Taxer les boissons sucrées pour en réduire la consommation et lutter contre l'obésité. Notre invité de la rédaction est le chef de la mission de l'ONU en RDC, alors que le Conseil examine la situation dans le pays. Haïti, les Nations Unies continuent leur mobilisation pour faire face aux destructions causées par l'ouragan Matthew, alors que près de 1,4 million de personnes ont désormais besoin d'une aide urgente. L'heure est aux consignes sanitaires d'urgence. Objectif prioritaire, éviter toute propagation du choléra, maladie transmissible par les eaux usées. Il faut donc fournir de l'eau potable aux populations. Aussi, l'Organisation mondiale de la santé envoyer des spécialistes sur le terrain et annoncer mardi l'envoi d'1 million de doses de vaccins contre le choléra en Haïti, soit la moitié du stock mondial. Dominique Legros, point focal de l'OMS sur le choléra.
Le Vibrio, qui est responsable du choléra, est dans l'environnement. Et à partir du moment où, à cause du cyclone, on a des inondations, on a un risque très important de contamination des eaux de boisson du Vibrio qui vient des latrines, qui vient des toilettes. Donc on est assez concerné par une augmentation du nombre de cas de choléra, d'autant plus qu'on arrive dans la saison où, classiquement en Haïti, on a déjà une augmentation des cas, généralement entre novembre et janvier-février. Donc on risque d'avoir une espèce de double phénomène, à la fois l'augmentation habituelle des cas et une suraugmentation, notamment dans le sud et dans le nord-ouest, qui ont été les plus touchés par le cyclone dû aux inondations.
La troisième étape de la campagne de vaccination massive contre la polio dans les cinq pays du bassin du lac Tchad démarre cette semaine. Une campagne en cinq étapes qui vise 41 millions d'enfants au nord-est du Nigeria, au Niger, au Tchad, au Cameroun et en République centrafricaine, notamment dans les zones affectées par le conflit avec Boko Haram. Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF à Genève.
Cette campagne de vaccination, elle fait suite à l'identification en août dernier de deux cas de poliomyélite au nord-est du Nigeria, dans des zones qui devenaient nouvellement accessibles, qui étaient auparavant fermées pour des raisons de sécurité. Et c'est une campagne qui est délivrée par les gouvernements de tous les États où elle a lieu. Donc le nord-est du Nigeria, le Tchad, le Niger, le Cameroun et la République centrafricaine. Et cette campagne, elle répond également à une inquiétude. Il y a des mouvements de population dans cette région, donc qui fuient le conflit au nord-est du Nigeria et qui vont dans les pays voisins, ce qui pourrait créer une diffusion de la polio. Donc, lors des deux premières étapes, plusieurs dizaines de millions déjà d'enfants ont été vaccinés. Ce n'est pas terminé. Et surtout, nous en profitons à l'UNICEF pour travailler également sur la détection de la malnutrition.
Ce mardi marque la célébration de la Journée internationale de la fille, journée qui a pour thème cette année « Progrès des filles égale progrès vers les objectifs de développement durable ». Pour autant, l'ONU appelle les gouvernements à investir dans la santé, la sécurité et l'éducation du 1,1 milliard de filles que compte le monde afin de leur permettre de prendre leur vie en main. On écoute Daniel Engel, spécialiste sur les jeunes et les adolescents du Fonds de l'ONU pour la population.
Pour beaucoup de filles, les années d'adolescentes sont un moment d'exploration, d'apprentissage, d'autonomie croissante. Mais pour beaucoup d'autres, elles sont un moment de vulnérabilité croissante et d'exclusion des droits et d'opportunités, ou seulement de pure et simple discrimination. Les jeunes filles qui souffrent d'une double discrimination liée au sexe et l'âge ont été les grandes oubliées des politiques jusqu'à présent. Elles ont difficilement accès aux informations de base concernant leurs droits et leur santé sexuelle et reproductive, par exemple, ce qui leur place souvent en situation de vulnérabilité et les rend sujettes à l'exploitation et à la pauvreté. Pourtant, nous savons bien que quand une adolescente a le pouvoir, les moyens et l'information nécessaires pour prendre ses propres décisions dans la vie, elle a une meilleure chance de surmonter les obstacles qui la séparent d'un avenir sain et productif.
Autre journée mondiale célébrée ce mardi, celle contre l'obésité. À l'heure actuelle, un adulte sur trois est en surpoids et plus de 600 millions d'adultes, dont une majorité de femmes, sont classifiés comme obèses, la forme la plus grave de surpoids. L'OMS appelle les gouvernements à prendre des mesures, d'autant plus que des millions d'enfants dans le monde sont aussi en surpoids. Le point avec Alpha Diallo.
Pour lutter contre le surpoids et surtout l'obésité des jeunes, l'Organisation mondiale de la santé explore plusieurs pistes. L'une d'elles consiste à une augmentation de 20% du prix des boissons sucrées par des taxes. L'OMS estime qu'une telle augmentation entraînerait une réduction de la consommation de 20%. L'autre piste préconisée consiste à une politique de subvention sur les fruits et légumes. Elle plaide ainsi pour une aide des gouvernements qui permettrait de réduire de 10 à 30% le tarif de ces denrées, entraînant ainsi une augmentation de leur consommation. Une stratégie qui serait efficace dans l'amélioration des habitudes alimentaires. En attendant, l'OMS estime que les boissons sucrées constituent l'un des facteurs qui contribuent à l'obésité et au diabète. En 2012, le diabète a ainsi tué 1,5 million de personnes dans le monde, une situation qui pourrait s'aggraver dans la mesure où le nombre d'adultes souffrant de diabète a explosé, passant de 108 millions en 1980 à plus de 420 millions en 2014. À l'échelle mondiale, le nombre de cas d'obésité a doublé durant la même période. Il y a deux ans, l'OMS estimait que 42 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
La situation politique en République démocratique du Congo pourrait atteindre très rapidement un point de bascule dans la violence grave. C'est ce qu'a prévenu ce mardi devant le Conseil de sécurité le représentant spécial du secrétaire général pour ce pays. Mamane Sidiku, qui s'est inquiété de l'augmentation des tensions et du rétrécissement continu de l'espace politique. Mamane Sidiku, que Jérôme Longuet a reçu dans nos studios.
Ce que nous voulons au Congo, ces élections honnêtes d'abord, dans le respect de la constitution de leur pays, qui a des dispositions très claires par rapport à qui peut être candidat ou qui ne peut pas être candidat. Le dialogue avec une partie de l'opposition est en cours. Il va certainement attirer un certain nombre d'accords. Nous verrons quels sont les points de convergence, les points de divergence entre la majorité et l'opposition. En particulier, un accord sur la séquence des élections législatives, présidentielles et provinciales en une seule fois, si les moyens techniques et financiers le permettent, les locales également. Ensuite, aller vers un gouvernement d'union nationale et d'autres types de dispositions sur lesquelles il faudra s'entendre. Nous attendons de voir ce que cela va donner, mais il reste qu'il y a une frange significative de l'opposition qui n'est pas dans ce dialogue. Or, la résolution 2217 est très claire. Il faut un dialogue le plus largement inclusif possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord atterrir ce premier dialogue et ensuite voir ce qui se passera ailleurs. Quelle forme de discussion, quelle forme de contact il y aura entre ceux qui sont au dialogue aujourd'hui et l'opposition, l'autre opposition, ou entre la présidence, la majorité et l'autre opposition, je ne sais pas, je ne pourrais pas parler au nom des Congolais. Tout ce que je sais, c'est que si nous ne trouvons pas de solution entre Congolais, nous risquons de replonger dans les affres terribles, des problèmes dont souffrent en particulier les populations du Congo. Sur le terrain, à l'Est, mais aussi, nous l'avons vu le 19 et 20 septembre dernier, nous pouvons avoir des échauffourées, nous pouvons avoir des morts de nouveau, et cela, ce n'est pas acceptable.
Alors, concernant justement ce processus et ce défi électoral, on sait qu'en termes logistiques, les Nations Unies ont déjà aidé la RTC donc à organiser des élections. Est-ce qu'aujourd'hui les Nations Unies sont prêtes également à renouveler cet effort?
Encore une fois, la résolution 2217 adoptée en fin mars de cette année est très claire. Les Nations Unies soutiennent la révision du fichier électoral qui a besoin d'être révisé. Il y a de nouveaux majeurs qu'il faut y intégrer, il y a des morts à expurger, il y a la diaspora, etc. Il y a eu des analyses, des études de nos propres experts des Nations Unies qui ont dit qu'il faut, en fonction de ce que la classe politique décidera entre elles, ou nous faisons tout de suite des élections, ce qui est apparemment pas jouable, ou nous prenons 9 mois ou 10 mois pour faire cette révision-là. En gros, on s'est rendu compte que ça prendra peut-être une année. En ce moment, nous sommes en discussion avec la CENI qui organise l'élection pour les aider avec la logistique pour le fichier électoral. En ce qui concerne les élections, la 2217 est très claire. Aucun soutien aux élections si un certain nombre de préalables ne sont pas établis. Respect des droits de l'homme, le respect de tout ce qu'il y a dans la Constitution en ce qui concerne les libertés fondamentales, etc., etc. Et cela sera évalué et ce sera le Conseil de sécurité qui décidera. Ce n'est pas moi, chef de la MONUSCO, je suis trop petit pour ça, comme on dit. Voilà où on en est.
Concernant justement des problèmes à l'Est, il y a eu clairement un tournant avec les massacres de Beni. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, la société congolaise, mais aussi aidée par les Nations Unies, peut aller de l'avant et faire en sorte que toutes les violations des droits de l'homme, que tous ces massacres qui ont eu lieu soient du domaine du passé?
Il ne se passe pas de semaine où quelqu'un n'est pas tué du côté de Beni. Et c'est d'autant plus douloureux pour nous que nous avons des hommes sur le terrain qui travaillent avec les forces armées congolaises. La coopération s'est beaucoup améliorée. Nous allons jusque dans la forêt combattre les ADF qui sont ceux qui perpétuent ces massacres, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous ayons davantage les populations avec nous, que nous ayons l'information, que nous ayons leur confiance, que la police se mette aussi au travail au niveau de Beni pour permettre à nos forces d'aller au contact de cet ennemi-là et le combattre. Il faut aussi améliorer les choses sur le plan de l'information. En plus, on peut se poser la question, je me pose moi la question de plus en plus, si le type de force que nous avons, et c'est ce qu'il y a de plus adapté pour ce genre de combat, qui est vraiment une guerre asymétrique. Il nous faut plus de forces spéciales, donc je ne vous dirai pas que les problèmes sont réglés, parce que les problèmes ne sont pas réglés du côté de Beni. Mais la situation est beaucoup plus compliquée que cela, parce que la région aussi doit prendre ses responsabilités dans cette affaire. Mais il y a du travail énorme à faire.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies, à retrouver sur Internet et sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. L'information se poursuit. On va passer aux nouvelles provinciales. Il est 16h18 en ce mardi 11 octobre. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 12 octobre, bienvenue dans l'émission. Donc, nouvelles provinciales. On commence avec une nouvelle sur la Cour suprême du Canada. La loi électorale de Colombie-Britannique est devant la Cour suprême du Canada. Elle fait l'objet d'une question, d'une cause devant la Cour suprême du Canada. C'est sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui. La loi électorale de Colombie-Britannique est contestée en Cour suprême du Canada par l'Association de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, la FIPA. L'organisme affirme que la loi actuelle restreint la liberté d'expression dans la province et qu'elle devrait comprendre une exception pour les tiers parties dépensant moins de $500 en publicité électorale. La Colombie-Britannique est la seule province au Canada qui exige qu'une personne ou un groupe s'enregistre auprès des autorités avant de pouvoir discuter d'enjeux politiques électoraux, même si cette personne ou ce groupe dépense peu ou pas d'argent. La FIPA affirme que cette interdiction d'expression sans être enregistrée est inconstitutionnelle et que des études montrent que des personnes ou des groupes ont évité de s'exprimer en public lors d'élections antérieures par crainte de recevoir de lourdes amendes ou même des peines de prison. Cette contestation de la loi électorale de la Colombie-Britannique devant la Cour suprême du Canada intervient à 7 mois de l'élection provinciale dans notre province, donc début 2017, il y aura une élection provinciale en Colombie-Britannique. Donc, on verra le verdict de la Cour suprême bien avant ce moment et peut-être que les tiers partis et les petits partis pourront respirer un petit peu. Je vous parle à présent de la question du Big One. Le Big One, c'est le tremblement de terre qu'on suppose, qu'on préconise, qu'on pronostique plutôt pour les prochaines 50 années en Colombie-Britannique. Il va se produire, croient les scientifiques. Il y a un article là-dessus dans le portail de Radio-Canada aujourd'hui. Le risque d'un Big One augmente temporairement à tous les 14 mois en Colombie-Britannique. Le Big One, l'important tremblement de terre attendu en Colombie-Britannique au cours des 50 prochaines années. Est plus susceptible de se produire pendant une période déterminée à tous les 14 mois, selon les données observées par la Commission géologique du Canada à Victoria. À peu près tous les 14 mois, en effet, pendant une période de 2 semaines, les chances d'occurrence d'un important tremblement de terre augmentent sensiblement dans la région. Les sismogrammes à des intervalles réguliers espacés de 14 mois. Et ces phénomènes, donc, représentent tous les 14 mois, il se produit une inversion soudaine de mouvement sur l'île de Vancouver pendant environ 2 semaines, affirme Alison Bird dans cet entretien accordé à Radio-Canada. Ça s'agite dans une direction et puis soudainement ça se calme. Ça pourrait être un signe de rupture et le déclenchement du tremblement de terre très puissant. La zone de subduction Cascadia est une faille de 1000 km qui s'étend du nord de l'île de Vancouver jusqu'au nord de la Californie. Cette faille représente la limite entre 2 plaques tectoniques dont celle de Fuca, oui, se déplaçant vers la plaque nord-américaine sur laquelle nous vivons. Une partie de cette limite est bloquée, ce qui empêche les plaques de glisser doucement. Le mouvement frontal s'accumule à l'intérieur des roches en attendant que l'énergie soit libérée lors d'un tremblement de terre de grande ampleur, surnommé le Big One. Selon Alison Bird, durant ces phases de glissade lente, les forces sur les plaques augmentent sensiblement. Lors du phénomène d'inversion, pendant 2 semaines, des contraintes supplémentaires se produisent sur la partie bloquée et cet ajout peut entraîner une rupture brutale, a-t-elle déclaré dans cet article. La dernière observation de ce mécanisme particulier qui survient à tous les 14 mois a été observée donc en décembre 2015 et janvier 2016 plus précisément, donc dans notre province. Alors dans 14 mois après cette période, ça correspond à février 2017. Espérons que tout reste normal, bien sûr, lors de cette période de 2 semaines qui revient à tous les 14 mois. Donc, si vous voulez plus de détails sur ce phénomène, vous pouvez consulter l'article publié aujourd'hui dans le portail de Radio-Canada. Je me transporte dans les pages de l'agence QMI pour vous signaler une initiative qui provient de Colombie-Britannique. Il s'agit de la tente du petit réfugié qui avait été retrouvé sur une plage en Turquie. Rappelez-vous, la photo avait fait le tour du monde. La tente du petit Alan Kurdi, ce migrant de 3 ans, dont la photo du corps rejeté par la mer sur une plage turque a ému la planète, aimerait créer une fondation en son nom pour aider les enfants réfugiés, a rapporté le Globe and Mail. Donc, la tente du petit Alan est établie en Colombie-Britannique. En septembre 2015, Alan Kurdi est devenu, malgré lui, le symbole de la crise migratoire en périssant dans le naufrage d'un navire de réfugiés. Sa mère, Rehana, et son frère, Galib, se sont aussi noyés, tandis que le père, Abdullah, a pu survivre. En leur mémoire, Tima Kurdi, qui est la tante du petit Alan, travaille à la mise sur pied d'une fondation pour venir en aide aux enfants réfugiés du Kurdistan en leur fournissant de la nourriture, des vêtements et du matériel scolaire. « J'ai décidé que j'essaierai de faire de mon mieux », a-t-elle déclaré dans cet article du Globe and Mail. « Je ne sais même pas par où commencer, mais je connais plusieurs personnes au grand cœur qui sont prêtes à aider. » Elle compte aussi attirer l'attention des politiciens canadiens et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, environ un être humain sur 113 est soit un déplacé interne, un réfugié ou un demandeur d'asile. De ce nombre, près de 300 000 ont tenté de la traversée de la mer Méditerranée depuis le début de l'année 2016 et ce nombre s'était élevé à 1 million en 2015. Donc voilà qui conclut le petit tour d'horizon des nouvelles provinciales. On s'arrête quelques instants en musique. Je vous propose d'écouter une pièce intitulée Idéal Estérel. C'est de l'artiste Elsa Kopf et on se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles du jour. Dans le débrief, il est 16h28. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9 à Victoria. On va passer à la nouvelle du jour. On s'intéresse à la conquête spatiale aujourd'hui. Je vous parle d'un article publié dans Le Figaro. C'est un petit peu partout dans la presse mondiale, bien sûr, vu l'importance de la nouvelle. Les Américains ont de nouveau la fièvre de la conquête spatiale. Ils ont de nouveau la piqûre et se lancent dans l'exploration. Et cela bien au-delà de notre satellite, la Lune. Alors, comme le rapporte Le Figaro, il y a quelques jours, Barack Obama entend envoyer un vaisseau sur Mars dès 2030. Dans une tribune publiée ce mardi sur le site de CNN, le président américain a détaillé son plan pour conquérir la planète rouge d'ici à la décennie 2030. Il entend collaborer avec le secteur privé pour faire le pas de géant vers la colonisation de Mars. Dans la foulée de la conférence d'Elon Musk, le patron de la société SpaceX, également le patron de la compagnie Tesla, il y a quelques jours, Barack Obama s'est à son tour exprimé sur la conquête de Mars. Dans une tribune publiée sur CNN, le président a confirmé sa volonté de s'appuyer sur une étroite collaboration avec le secteur privé pour faire le pas de géant, comme il dit, vers la planète rouge. « Nous avons fixé, a-t-il dit, un objectif clair pour le prochain chapitre de l'histoire de l'Amérique dans l'espace, envoyer des humains sur Mars dans la décennie 2030 et les faire revenir sur Terre en sécurité. » Toutefois, l'ambition ultime reste, selon lui, d'un jour pouvoir rester sur cette planète pour une longue durée. Le président américain annonce une collaboration avec le secteur privé pour construire de nouveaux vaisseaux qui pourront accueillir et transporter des astronautes sur des missions de longue durée dans l'espace lointain. Ces missions nous permettront, a-t-il dit, de comprendre comment les humains peuvent vivre loin de la Terre, quelque chose dont nous aurons besoin pour le long voyage vers Mars. La Maison-Blanche a précisé que 6 sociétés, parmi lesquelles Boeing et Lockheed Martin, avaient été retenues cet été pour fabriquer des prototypes pour des modules d'habitation au-delà de la banlieue proche de la Terre, où vole par exemple la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Donc ces compagnies recevront au total 65 millions de dollars dans les 2 prochaines années. Ces espaces habitables qu'elles ont mandat de construire, de concevoir, pourront être développés sur une planète comme Mars ou utilisés dans des vaisseaux qui emporteront des astronautes sur de longs périples spatiaux. Alors, on se souviendra que Lockheed Martin est la compagnie qui était responsable de développer le F-35, un chasseur qui a coûté des centaines de milliards de dollars. Oui, des centaines et non des dizaines de milliards de dollars. Espérons qu'ils vont bien gérer les montants alloués pour cette exploration spatiale. Je poursuis dans cet article du Figaro. Un des principaux défis logistiques sera de pouvoir transporter assez de nourriture et d'eau pour des trajets de plusieurs mois, voire de plusieurs années, et peu de recherches ont été faites sur le sujet jusqu'à présent. Intitulé « L'Amérique fera le pas de géant vers Mars », la tribune de Barack Obama sur le portail CNN est une allusion à la phrase mythique prononcée en 1969 par l'astronaute Neil Armstrong lors de son arrivée sur la Lune, « Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité ». À propos du milliardaire Elon Musk, cet article du Figaro rappelle qu'il a présenté fin septembre un projet d'initiative privée visant à établir une ville sur Mars. Il compte envoyer des humains à bord de grands vaisseaux équipés de cabines au prix de 100 000 dollars par passager. Elon Musk, qui est le patron de Tesla, donc si vous connaissez les voitures Tesla, vous connaissez cet entrepreneur. Il s'est dit optimiste sur la possibilité d'envoyer la première mission habitée en 2024, une mission qui arrivera sur Mars l'année d'après. Mais la compagnie SpaceX n'est pas la seule société à rêver d'envoyer des humains sur Mars, indique l'article. Il y a aussi Blue Origin, qui a été fondée par le directeur d'Amazon, le PDG d'Amazon, Jeff Bezos. Et Jeff Bezos qui a révélé ses projets de construire une énorme fusée baptisée New Glenn. Il a toutefois indiqué que l'objectif d'atteindre Mars prendrait plusieurs décennies. En tout cas, les milliardaires américains ont l'air d'être enthousiasmés par la perspective de se poser sur Mars. Et bien sûr, le gouvernement américain est chef de file. On verra où ça mène tout ça, s'il y aura effectivement des décollages, une mise à feu dans les prochaines années. On termine cette petite revue de presse sur une nouvelle amusante, ou plutôt qui peut susciter un peu de cynisme. L'ancienne commissaire européenne en charge du climat a été recrutée par Volkswagen. Donc on reste dans les transports, si vous voulez. Volkswagen, vous vous en souviendrez, s'est fait pincer cette année. Les dispositifs secrets qui étaient installés à bord de ces voitures pour tromper les tests d'émissions GES ont été découverts par le gouvernement américain, c'est assez étonnant de voir l'ancienne commissaire européenne en charge du climat, qui est recrutée justement par cette compagnie délinquante, oui, qu'on peut appeler délinquante au vu de la supercherie qui avait été perpétrée sur les moteurs. On verra si elle accorde des entrevues à ce sujet. Je clôt la section en vous mentionnant que le fabricant de manteaux d'hiver Canada Goose, c'est un fabricant canadien, prépare son entrée en bourse pour 2017. C'est rapporté aujourd'hui par le Wall Street Journal. Vous trouverez également un article dans le journal Les Affaires, lesaffaires.com, un portail québécois. On s'arrête pour quelques instants. On va aller à l'interview du jour, la première de deux interviews. Dans quelques instants, je m'entretiens avec Marie-Hélène Bourret, qui nous signale deux visites guidées gratuites et en français sur l'histoire de Victoria. La première a lieu demain, mercredi 12 octobre, et la seconde a lieu jeudi 13 octobre. C'est tout de suite dans quelques instants dans l'émission Le Débrief. À tout de suite. Vous écoutez Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. Je retrouve ma collègue Marie-Hélène Bourret en studio pour qu'on parle de visites guidées en français à Victoria qui vont très bientôt se dérouler. Et ce sont des visites à thématiques historiques, n'est-ce pas?
Historiques. Effectivement, c'est un contrat qu'on a eu de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. On avait déjà fait quelque chose au printemps dernier ou l'automne dernier, je me souviens plus, sur les racines francophones de Victoria. On avait eu quand même quelques personnes qui étaient venues, c'était bien. Mais là, on veut faire, à leur demande, l'histoire du Canada, puisque c'est pour la semaine de la citoyenneté. C'est l'histoire du Canada, mais à travers l'œil de Victoria. Ça va débuter à Confederation Plaza, qui est sur Belleville, au coin de, je sais pas c'est quoi, ce Menzies peut-être qui est là. Confederation Plaza, c'est facile à trouver, c'est juste à côté du gouvernement, du Parlement.
Oui.
Et ça commence à 7h demain, mercredi le 12 octobre, donc il y a une visite guidée qui est à 7h-là.
Et on parle de 19h?
De 19h, okay. En français.
Oui.
Et il y en a une autre jeudi le 13 à 10h le matin, et qui est bilingue. Alors, ce que ça veut dire, c'est si on a des gens qui viennent, des anglophones qui viennent, je ferai des bouts en anglais, je ferai des bouts en français. S'il y a juste des francophones, ben, je ferai juste en français, évidemment. Mais on a déjà quelques réservations.
D'accord. Et répétons-le, c'est gratuit.
C'est gratuit, mais on vous suggère fortement de faire une réservation. Et je vous donne tout de suite mon adresse où vous pouvez m'écrire pour faire la réservation. C'est Marie. @discoverthepast.com. Donc, Marie, @discoverthepast.com. Et ce qui est intéressant, c'est que, et je vous dis que je travaille là-dessus, je planche là-dessus depuis quelques jours parce que on a eu le contrat seulement la semaine dernière. Le gouvernement fédéral oblige.
Oui.
Il y a tellement d'informations, des choses qu'on a oubliées, qu'on a appris à l'école. Par exemple, moi, je savais pas. Mais on n'est pas une confédération, on est une fédération.
Oui, il y a une subtilité. Là.
Il y a une subtilité politique, légale, bon. Et j'avais jamais, sans doute qu'on me l'avait dit déjà,
Et ça tient à quoi? Donc, je sais que la Suisse est une confédération, par
exemple. Ben, c'est par rapport au pouvoir, la manière dont les pouvoirs sont divisés entre les provinces, les membres de la fédération et le gouvernement central. De manière, je te le dis en gros, là, c'est beaucoup plus subtil que ça, là. Et la visite elle-même, justement, ne s'attardera pas tant que ça à ces petits détails. C'est juste pour donner l'envie peut-être aux gens d'aller chercher un peu plus loin, mais aussi de comprendre des choses comme tout le monde pense à Chinatown.
Mm-hmm. Tu sais, le quartier chinois. Oui,
ouais, la fameuse porte de l'harmonie, là. On ne sait pas que c'est quoi. C'est beau, c'est Chinatown. Hein? Il y en a dans toutes les villes chinoises, dans tous les Chinatown. Dans le fond, c'était comme une espèce de réconciliation entre les gens de Victoria et la population chinoise et ou asiatique.
D'accord, donc c'était un symbole de réconciliation. Il y avait eu des persécutions, racisme.
Oh oui, il y a eu beaucoup de racisme dès les tout débuts des arrivées ici des Chinois. Alors, c'est pas d'hier qu'on accuse les étrangers, les immigrants de prendre toute la job. Hein?
Oui, c'est un peu le phénomène courant.
Ouais.
Mais toi, tu as l'habitude de donner des visites de Victoria. C'est pas comme si c'était la toute première.
J'en ai fait des dizaines. Pas dire une centaine ou deux.
Oui, voilà. Donc, ça vient naturellement, ça coule de source.
Oui, mais il y a un petit peu plus de recherche dans celle-ci, puisque l'autre, c'est les visites que j'aime d'habitude, ce sont les visites fantômes. Alors, on entre dans la pleine grosse période épouvantable, horrifiante de l'Halloween.
Oui.
Et ça commence ce vendredi pour nous, l'Halloween, donc du 14 octobre au 31 octobre. On a plusieurs visites qui sont données chaque soir. On peut avoir jusqu'à une dizaine de visites par soir.
Ah oui.
25-30 personnes par groupe. C'est vraiment la grosse saison.
J'aurais cru que l'été était la grosse saison, mais en fait, c'est les semaines précédant l'Halloween où justement les visites fantômes du vieux Victoria.
Ouais, Ghostly Walks.
Tu fais découvrir, comme le nom de la visite l'indique, les fantômes qui habitent Victoria, qui hantent les ruelles, les anciens bâtiments du port, etc.
Et partout en ville, on va débuter cette année à Bastion Square.
Oui.
Donc, le point normalement pour les Ghostly Walks durant l'année normale, durant la saison normale, c'est le Visitor Center Information, là, auprès Information Center, tout près du Empress Hotel, coin de Government, puis Humboldt, au Wharf. Maintenant, on va débuter à Bastion Square, le dernier étage en bas. Donc, vraiment le premier étage en bas.
D'accord.
Va avoir des gens qui vont être à la porte Bastion Square pour vous accueillir. Et s'il y en a qui veulent des visites en français pour les visites fantômes, ben je suis disponible.
C'est pour les groupes.
Pour les groupes seulement, parce que vous allez comprendre que seulement deux personnes, pour la compagnie, c'est vraiment pas une bonne idée, deux personnes. Le prix d'entrée, c'est $15 pour les visites fantômes pour les adultes, $13 pour les seniors et les enfants. Les familles ont un prix particulier. Vous pouvez toujours aller voir Ghostly Walks de Victoria, tout simplement sur Internet. Et je suis la guide, donc je suis la seule qui donne les visites fantômes en français.
Oui.
Faites-vous des groupes. C'est super le fun, un groupe de travail, la famille, les amis qui viennent visiter pour la fin de semaine. Écrivez-moi toujours la même adresse, marie@discoverthepass.com.
C'est la façon la plus simple, finalement.
C'est la façon la plus simple de me rejoindre. À part le site web, mais puisque c'est en français, c'est par moi qu'il faut passer. Alors, je rappelle que demain, le 12 octobre, à 19h, on se retrouve au Confederation Plaza, qui est tout à côté, donc sur Belleville, tout à côté du Parlement. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. La visite dure entre une heure et quart, dépendamment de la température. Et puis, le 13 octobre, jeudi, il y a une visite à 10h le matin.
D'accord.
Remarquez que si vous avez un groupe assez important, plus de 6 personnes, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours m'écrire, je répète, marie@discoverthepass.com, et on peut s'arranger pour faire une troisième visite juste pour votre groupe.
D'accord. Donc, j'espère que vous allez échapper aux intempéries. marie@discoverthepass.com. Merci, Marie-Hélène.
Merci, Alex.
Voilà, c'était Marie-Hélène à propos de ces deux visites qui auront lieu les 12 et 13 octobre. À réserver avec Marie-Hélène. On va Sans autre forme de transition, passer à la seconde interview du jour. C'est une chronique de lecture de l'artiste Nathalie Leduc que je vous propose tout de suite. Nathalie nous parle d'un livre de Thierry Bourcy intitulé « Éloge du petit déjeuner ». C'est dans quelques instants dans l'émission Le Débrief. On se retrouve de l'autre côté pour le mot de la fin. Si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107.9 à Victoria. L'émission se poursuit encore quelques minutes. C'est le créneau de l'interview à présent. Je reçois en studio Nathalie Leduc. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors Nathalie est artiste à Victoria. Les auditeurs commencent à la connaître. Ça fait quelques interventions qu'elle fait au micro du Débrief. Donc aujourd'hui, c'est chronique littéraire. On parle de littérature. On parle d'un auteur qui s'appelle Thierry Bourcy. De qui s'agit-il, Nathalie?
Thierry Bourcy est un scénariste français. Il écrit beaucoup pour la télévision et pour le théâtre. Et il a aussi fait une série, il a écrit une série de romans qui se passent pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont des romans policiers. Très intéressant. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller lire du Thierry Bourcy, vous ne serez pas déçus. Allez-y.
Oui. C'est des bons thrillers, des bons romans policiers.
C'est des bons policiers.
Ça accroche. Ouais.
Puis en plus, ces policiers, ces romans policiers sont très bien, sont très bien écrits au niveau de la langue.
Oui.
Mais aussi, il y a une bonne recherche au niveau de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur la Première Guerre mondiale et les relations humaines.
D'accord.
Mais aujourd'hui,
oui,
je vais vous parler du petit livre qu'il a écrit l'année dernière, qui s'appelle « Petit éloge du petit déjeuner », qui est paru chez Folio Gallimard.
OK. Donc, le petit déjeuner, surtout en Amérique du Nord, ben en Europe aussi, c'est quelque chose qu'on avale très vite et quand on est pressé. Alors, je sais pas si c'est à propos du stress de la vie moderne. les Français prennent un bol de café avec un morceau de chocolat. C'est le cliché, en tout cas.
Plutôt du pain avec...
Ouais, un peu de pain.
Un morceau de pain avec de la confiture.
Oui, voilà.
Morceau de pain, confiture, parfois des croissants. Oui.
C'est assez sommaire, généralement.
Oui, mais en lisant le livre de Thierry Bourcy, on s'aperçoit en fait que même si on pense que c'est sommaire, que c'est pris rapidement, il y a une grosse, grosse importance que les gens mettent sur le petit déjeuner, en fait. Beaucoup plus qu'on le pense.
Ah,
et
ouais.
Oui, quand on le lit...
C'est inconscient?
Non.
Non?
Je pense que ça dépend peut-être des générations aussi.
Oui.
Là. Et puis du moment où on est dans la vie, quand on a le temps de prendre un bon petit déjeuner, je pense qu'on l'apprécie peut-être un peu plus.
Ouais. En tout cas, les nutritionnistes nous recommandent de prendre nos calories et puis de manger beaucoup en début de journée.
C'est un des repas les plus importants selon beaucoup de personnes. Et puis c'est ce qu'on retient en fait de ce livre aussi, que c'est un moment vraiment important dans la journée. C'est un repas très important aussi.
Ça pourrait s'appeler le yoga du petit déjeuner finalement. C'est un instant de... Comment on dit en anglais, de awareness, donc prise de conscience de son environnement, on s'arrête.
Oui, en fait, c'est drôle. Ce que tu viens de dire, en fait, ça rejoint un peu ce qu'il dit au début où il dit que le petit déjeuner, c'est ce moment privilégié entre la nuit et le jour où on passe d'un monde, le monde des rêves, le monde du sommeil, le monde du repos, à la partie plus active de notre vie. Donc c'est un moment vraiment important le matin et ce qui est intéressant aussi, c'est il fait beaucoup de petites remarques sur le petit déjeuner, mais aussi sur les personnes avec qui on prend le petit déjeuner.
Oui.
On prend pas nécessairement le petit déjeuner avec n'importe qui. Il parle des petits déjeuners au travail qu'il trouve un petit peu aberrant. On ne peut pas nécessairement prendre de petit déjeuner avec notre patron.
Non, c'est vrai, ça...
Et puis, bon,
c'est
il parle...
C'est pas important, ça... Non. C'est,
Il donne une vision très romantique du petit déjeuner, mm-hmm. je trouve. Je trouve que c'est un très bon livre pour ce...
Il y a des gens qui vont, vont devoir faire des changements dans leur vie après avoir lu ce livre, parce que il y a des gens qui, dès le réveil, sont sur leur téléphone.
Oui.
Mm-hmm. Commencent à parcourir leur téléphone, les médias oui. sociaux. Ils sautent dans la douche, sont pressés. Le petit déjeuner, ils avalent quelque chose sans le savourer et mm-hmm. ils courent vers l'autobus ou la voiture. Et puis... Ouais. C'est ça. C'est la journée commence un peu en zombie finalement.
Ouais. Peut-être qu'on peut leur recommander comme il est mentionné dans ce livre. Bon, il nous recommande pas nécessairement de le faire, mais il parle dans une des sections. Il fait une espèce de sondage auprès de ses amis. Il a envoyé un sondage à plus de 200 personnes ouais. pour voir ce que ces personnes pensent du petit déjeuner, quelles sont leurs habitudes et tout ça. Et il y a une réponse que j'avais beaucoup appréciée, qui était une personne qui disait que elle mettait son réveil matin encore plus tôt le matin pour pouvoir prendre plus de temps au petit déjeuner. En fait. Donc, peut-être que c'est un truc que certaines personnes voudront essayer, de se lever plus tôt pour ouais. Mieux profiter du moment du petit déjeuner.
Oui, oui, oui. C'est pas vraiment un manuel ni un livre qui contient des consignes numérotées.
Non, non, pas du tout.
C'est assez poétique, n'est-ce pas?
C'est assez poétique. Et puis, il y a même certaines parties où il y a des textes de fiction inspirés de petits déjeuners. Et puis, à la toute fin, il y a toute une section qui s'appelle « Un tour du monde ». Et il parle du Royaume-Uni ici, de la Pologne, de l'Islande, de l'Espagne, de Hawaï, le Portugal, l'Australie, etc. Et où il fait une petite histoire où il raconte des anecdotes qui font allusion au petit déjeuner ou des choses qu'on mange au petit déjeuner.
D'accord. Et j'ai aperçu que l'auteur t'avait fait une petite dédicace. Alors c'est vraiment un privilège. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a donné une information supplémentaire à propos des petits déjeuners?
Non.
C'est une dédicace très personnelle, donc qu'on ne peut révéler à l'antenne de CILS. Mais on encourage les auditeurs, bien sûr, à se procurer ce petit livre, qui c'est une plaquette, hein, et ça oui. fait autour de 100 pages à peu près.
Oui, c'est une centaine de pages, toutes bien écrites,
ouais.
toutes bien pesées, donc c'est 100 pages qui se lisent avec beaucoup... de plaisir.
Oui.
En fait, je l'ai lu d'un trait. Je l'ai oui. lu vraiment d'un trait. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup son écriture.
C'est ce que tu m'écrivais dans le courriel, ouais. d'ailleurs. Je mm-hmm. viens de lire ce soir le livre de Thierry Boursier. J'ai dit wow.
Que j'ai reçu le jour même, en
wow.
fait. Oui, et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans son livre, c'est ses souvenirs d'enfance.
Oui.
Il évoque des souvenirs d'enfance reliés au petit déjeuner mm-hmm. qui sont vraiment très beaux. Il fait des comparaisons entre le petit déjeuner français, le petit déjeuner britannique,
oui.
Qui sont parfois très touchants, très drôles.
Est-ce qu'il il venait d'un milieu paysan ou plutôt classe moyenne, urbaine?
Au début, bon, il parle de son enfance et il dit qu'il était plutôt en milieu rural.
D'accord.
Donc, il mangeait de la crème là, de la vache. Là,
ben, ouais.
Le lait et la crème directement presque du pied de la vache. Bon, chez les voisins, donc pas chez eux. Il allait chercher le lait vraiment très, très, très frais.
Wow.
Donc, il y a ce genre de souvenirs. Ouais.
Magnifique, magnifique. Je viens rapidement, tandis que tu me parlais du livre, d'aller sur le site de la Bibliothèque municipale de Victoria
oui.
pour voir si l'auteur figurait dans la collection. Malheureusement, je n'ai pas pu le trouver. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez qu'en tant qu'abonné de la Greater Victoria Public Library, vous pouvez commander des livres qui sont dans d'autres bibliothèques du Canada ou de la province. C'est très facile. Il suffit de remplir le formulaire se trouvant sur le site de la bibliothèque et le livre vous est livré. Il y a peut-être des petits frais parfois, mais la plupart du temps, c'est gratuit.
Ou alors, faudrait le faire commander directement à la bibliothèque.
Oui, ça, c'est aussi une éventualité. On peut proposer des livres, évidemment. Ouais. ou encore se rendre sur, je sais pas, un portail qu'on nommera pas. Il y a le portail géant qui monopolise les livres dans le monde. Vous le connaissez. Il y a aussi des portails québécois comme Renaud-Bré. Ça doit être autour de 7 ou 8 $ ce petit livre, je crois.
En euros, c'est 2 euros.
C'est seulement 2 euros. Donc, en dollars, ce sera un peu plus, mais sans doute que ça dépassera pas les 10 $. C'est une très bonne lecture. Je vais peut-être essayer de l'emprunter à Nathalie. Je vous dirai si... j'ai pas encore la confirmation. Donc voilà, ben est-ce que ça complète ce tour du petit-déj? Est-ce qu'il y avait autre chose à dire?
Qu'est-ce que tu as mangé ce matin, toi?
Ce que j'ai mangé ce matin, excellente question, du millet. J'ai fait du millet, j'ai mis du lait de noix de coco dedans avec du beurre d'arachide et j'avais quelques raisins aussi à côté.
Un bon petit déjeuner.
Ouais, c'est un bon petit déjeuner. Mais j'ai commis peut-être un impair selon Thierry Boursier en le mangeant devant mon ordinateur. Donc ça enlève un peu la magie de l'instant, quoi. Et toi?
Moi, oui. J'ai mangé une rôtie avec du beurre et de la confiture et un avocat.
Oui. D'accord.
Et un avocat avec un ou deux verres d'eau.
Mais si tu dis rôtie, Thierry, il comprendra pas. Hein. On dit des toasts en France. Il y a un autre terme aussi, mais anglais bien sûr qu'ils utilisent. Mais ok, ouais,
du pain grillé, voilà.
Du pain grillé. Oui. Ben, chers auditeurs, voilà qui conclut notre petite chronique sur le livre de Thierry Boursier, qui est une défense du petit-déj.
Petit éloge du petit-déjeuner.
Voilà. Ouais. Grand merci, Nathalie.
De rien.
À bientôt. Voilà, c'était l'artiste Nathalie Leduc à l'antenne de CILS FM 107,9 dans le débrief, 16h55. C'est déjà la fin de cette édition du débrief. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver demain, 16h, bien sûr. Je vous laisse sur cette excellente pièce de la formation jazz JAG. Et on va se retrouver demain, 16h, à l'antenne de CILS FM. Bye.